J'interromps encore les commentaires des épîtres pauliniennes sur le thème de l'incarnation pour faire une aparté au sujet de l'épître que nous avons entendu aujourd'hui, les débuts de l'épître aux Galates. Vous savez, au moins en Occident et à notre époque, à l'époque contemporaine, Saint Paul a mauvaise presse. Saint Paul est mal vu, souvent mal vu. Je m'en démarque, mais enfin, certains pensent que Saint Paul est venu falsifier le message du Christ. On estime que c'est Saint Paul, ceux-là estiment que c'est Saint Paul le fondateur du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais que ça ne respecte pas la doctrine qui est venue nous enseigner et nous montrer Jésus. Je leur laisse la responsabilité de leurs affirmations, auxquelles je n'adhère d'aucune manière. Mais justement, l'épître, cet épître d'aujourd'hui, avec d'autres d'ailleurs, montre que Saint Paul n'est pas un falsificateur. Et qu'au contraire, il a explicité, il a rendu intelligible théologique le message que le Seigneur était venu nous montrer et dont les apôtres ont témoigné. Complémentaire est le témoignage des apôtres et des évangélistes. Complémentaire, la doctrine, les explications données par Saint Paul. Et celui-ci a une place particulière parmi les apôtres, difficile à comprendre d'une manière purement logique. On le considère comme l'un des 12. Et il n'a jamais connu les apôtres à l'époque du Christ. Il en a peut-être connu un ou deux. Il a peut-être croisé le Christ de son vivant visible, mais c'est même pas sûr. Si jamais il l'a croisé, il était vraisemblablement à applaudir au moment de la crucifixion. D'ailleurs, on sait à quel point il a martyrisé ses disciples, puisque il était même présent et il encourageait les Juifs qui ont martyrisé Saint-Étienne. Comment il recevait des lettres de mission pour aller essayer d'éteindre ce nouveau mouvement des disciples du Christ là où il se trouvait, et tout ça de bonne foi. Donc il était aux antipodes, si je peux dire, de la vie apostolique. Et pourtant, on le considère comme l'un des apôtres. Vous voyez sur les icônes, vous voyez l'importance justement que revêtent les épîtres qu'il a écrites. Et d'où vient donc sa connaissance, d'où vient donc, sur quoi est basé le témoignage qu'il porte sur la vie du Christ. Nous connaissons tous ce qu'on appelle son chemin de Damas. Nous connaissons tous la révélation la vision dont il a bénéficié entre Jérusalem et Damas, où il était bouleversé, enveloppé de lumière, rendu aveugle pendant un certain temps en allant à Damas. Et c'est certainement pas à ce moment-là, ça c'est une révélation bien sûr, un changement de perspective, une transformation intérieure. Mais dans l'épître que nous avons entendu, nous voyons qu'après il part en Arabie. Quand vous entendez Arabie, n'allez pas penser à La Mecque ou à Médine. Dans leur vocabulaire, dans l'Arabie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, le sud-est, si vous voulez, au sud-est de la mer Morte, où personne ne sait exactement. Et 3 ans après, il revient encore à Damas. Cette retraite d'au moins 3 années, d'après d'autres épîtres, mais je n'ai pas noté les références, un peu intentionnellement et un peu par paresse, en ce moment même, montre que toute cette période-là, comme toute sa vie d'ailleurs, il a eu une multitude de visions, de révélations personnelles qui lui ont montré quelle était la vie du Christ et la signification de la vie de Jésus. C'est comme ça qu'il a pu porter témoignage de ce qu'avait vécu Jésus, sans y avoir été physiquement présent. Et comment pouvons-nous être sûrs qu'il n'est pas inventé, qu'il n'est pas extrapolé, qu'il n'est pas inventé effectivement une nouvelle religion, comme certains le prétendent? C'est qu'après cette période-là, il est allé à Jérusalem. Non pas pour confronter sa foi avec celle des apôtres, mais pour, alors qu'il avait déjà prêché le Christ, alors qu'il avait déjà agi comme apôtre, ce qui la plupart du temps avait été un échec d'ailleurs, assez cuisant, il va rencontrer Képhas, Pierre, et le frère du Seigneur, Jacques, frère, évêque de Jérusalem, chef de l'église de Jérusalem. Et là, ils reconnaissent que la doctrine, que la révélation qu'a eue saint Paul est effectivement la révélation évangélique. De là, il a toute la liberté, la latitude pour aller enseigner, aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle aux nations païennes. Ceci est fondamental, d'une part pour montrer que la doctrine chrétienne ne dépend pas uniquement de l'autorité de Pierre, d'une part, et des autres apôtres, d'ailleurs, il n'en a rencontré que deux. Il n'a pas rencontré les 9 autres. Il a rencontré Pierre et Jacques. Et ça suffit pour que tout le monde le reconnaisse. Et ce qui montre aussi que la révélation du Christ a utilisé la personne de saint Paul pour moudre en quelque sorte le grain reçu des évangiles, de l'évangile, du message du Christ. Les évangiles étaient à peine écrits, ou pas écrits du tout d'ailleurs, peut-être à ce moment-là, quand il... c'est cela, cette double révélation, celle des apôtres et celle qu'a reçue et communiquée saint Paul, qui sont à la base de ce que nous savons. Lorsque saint Paul, dans l'épître d'aujourd'hui, dans l'épître Galates, nous dit que cette révélation n'est pas une révélation d'homme, mais vient de l'Esprit Saint, il veut dire par là que ce n'est pas les apôtres qui lui ont appris tout cela, que c'est directement une révélation du Seigneur. Et il faut rattacher l'expérience mystique de Saint Paul à l'expérience, d'ailleurs les mots sont les mêmes, à l'expérience de Saint Pierre quand il était à Césarée de Philippe devant les temples dédiés au dieu Pan, dans la ville actuelle de Banias, là où il y a les sources du Jourdain, où devant les idoles, le Seigneur demande à ses disciples, mais par rapport à toutes ces idoles-là, pour vous, qui suis-je? Les uns répondent pour Moïse, tu es Moïse, d'autres Élie, etc. Non? Et Saint Pierre prend la parole et dit non, tu es. Et Christ dit oui, mais moi je ne vous vote pas pour les autres. Je ne demande pas ce que les autres en pensent, je demande ce que vous pensez que je suis. Et Saint Pierre dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le loin, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le Christ lui répond, dans un autre vocabulaire que vous connaissez mieux, mais bravo, bravo Pierre, mais cette révélation-là, ce n'est pas toi, elle ne vient pas de toi, c'est l'Esprit-Saint qui te l'a révélée. C'est le même type de révélation qui permet à Pierre de voir que l'homme qui est devant lui, son Seigneur, est Dieu fait homme, celui que le peuple attendait depuis Abraham. C'est la même révélation qu'a eu aussi Saint Paul pendant tout son séjour au désert et pendant toute sa vie. Il faut rapprocher encore l'expérience les expériences de Saint Paul avec celle de Moïse. Moïse aussi a eu des révélations sur le Sinaï, notamment, mais pas exclusivement sur le Sinaï, quand il entrait dans la tente du témoignage. Là, il conversait avec Dieu. Toute sa vie, ça a été comme ça. Et Saint Paul a une vie identique. On voit, il en parle sobrement. Ça lui échappe, si on peut dire, de temps en temps. Ou alors, il s'appuie dessus pour porter un témoignage, pour asseoir son témoignage. Mais constamment, en lisant les Actes des Apôtres et les Épîtres, on voit que Saint Paul a reçu une indication, une révélation de l'Esprit Saint qui lui dit qu'il faut maintenant faire telle chose ou ne pas faire telle autre. Qu'il faut passer, par exemple, il faut aller en Macédoine. L'Esprit Saint lui a dit qu'il va en Macédoine. Toujours des révélations de cet ordre-là. Mais comment ces révélations ont-elles pu avoir l'efficacité qu'on leur connaît? Et comment le christianisme a pu se répandre aussi rapidement dans le monde connu d'alors, évidemment? Parce que Saint Paul, à la suite de cela, à la suite de ces révélations, s'est assimilé, ou si on voulait être plus sûr, plus juste théologiquement, il s'est laissé assimiler, au Christ. Il a fait un avec le Christ. Et il a pris son maître, et le nôtre, comme modèle absolu, dans l'esprit, pas dans la forme. Et au nom de son maître, il agissait en tout de la même manière. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons lu aujourd'hui que une révélation a demandé à Joseph, dont nous célébrons la mémoire, de partir en Égypte pour fuir la colère d'Hérode. Je vous ai montré tout à l'heure comment Saint Paul était aussi parti pour faire cette retraite forcée, où il était allé en Arabie. La mission du Christ sur terre, visible, je dirais, elle continue aujourd'hui sur terre. Alors, c'est pour ça que je précise ce qui était visible. C'est soldé par un échec. Personne n'a cru ce qu'il disait. Ceux qui auraient voulu y croire étaient découragés, pour faire les pèlerins d'Emmaüs. Les femmes, ça ne comptait pas. Leur témoignage ne comptait pas, on n'a pas voulu les croire. Bref, il meurt sur la croix, sans suite possible au message qu'il est venu délivrer. Et pourtant, après sa mort, il est ressuscité, l'Esprit-Saint est venu, et nous connaissons le développement de l'Église. Saint Paul a eu la même chose. Partout, regardez, partout où il est passé, partout on l'a rejeté, partout on l'a abandonné, partout on l'a... Combien de fois il a été lapidé, combien de fois il a été flagellé, combien de fois il a été... Dès les premiers jours, après sa vision du chemin de Damas, alors qu'il était à Damas et qu'il commençait à prêcher, les Damasènes ont voulu lui faire la peau. Il a été obligé de s'enfuir par une fenêtre dans la muraille. C'est les disciples qui ont réussi à le faire échapper. Et toute sa vie, tout le temps, tout ce qu'il a fait, c'était un échec. Il a porté, avec le Christ, il a porté sa croix. Et sa vie s'était terminée comment ? Par la décapitation que vous connaissez à Rome, décapité à Rome, donc comme son Seigneur, mais en union avec lui, fort de la foi qu'il avait et de la révélation qu'il avait eue. Mon but n'est pas de vous raconter aujourd'hui la vie de Saint-Paul. Elle est intéressante, évidemment. Mais mon but est d'essayer de vous montrer et de vous mettre en garde sur les critiques que l'on peut faire à son sujet. Il n'est pas venu falsifier le message du Christ, il est venu l'expliciter. Maintenant, pour vous révéler, je ne me prends pas pour l'Esprit Saint, mais pour vous révéler aussi l'origine de ces critiques sur Saint Paul, c'est parce que il a eu le malheur, je mets des guillemets, il a eu le malheur de dire aux femmes de ne pas prendre part, au discours dans les assemblées, de porter d'avoir la tête voilée et d'être des aides pour leur mari. Et ça, c'est aujourd'hui impardonnable. Et à cause et à cause de ça, on trouve qu'il a changé quelque chose. Voilà l'origine de l'opposition, c'est-à-dire une manière trop humaine, si vous voulez, de ne pas restituer les événements, les paroles de Saint Paul dans leur contexte. Donc, je vous encourage à voir dans les épîtres, à lire dans les épîtres, une révélation de l'Esprit-Saint, théologisée, mise en forme, si on peut dire, explicitée, tout du moins un commencement d'explicitation par Saint Paul, qu'il savait de quoi il parlait parce qu'il l'avait vu. Comme Moïse, sur le mont Sinaï, a vu la gloire de Dieu, et par les indications qu'il donne de la construction de la tente, de l'ordonnance des processions, de l'organisation de la confection du mobilier liturgique, tout cela est une révélation pour que le peuple puisse goûter, puisse voir, puisse sentir, puisse vivre la même révélation à travers des symboles, à travers des signes que lui-même Moïse avait vu sur le mont Sinaï. Eh bien, les épîtres de Saint Paul nous montrent aussi, mettent à notre disposition les visions qui ne sont pas différentes que celles de Moïse, qu'avait eu Saint Paul tout au long de sa vie, et que les apôtres avaient bénéficié aussi lorsqu'ils étaient physiquement présents autour du Seigneur lorsqu'il pérégrinait dans toute la Palestine. Mais cette révélation qu'a eu Saint Paul, d'avoir bénéficié Saint Paul, était inscrite dans les desseins de Dieu, dans le projet de Dieu. Les apôtres, le Christ n'est venu porter la bonne nouvelle qu'à l'intérieur du peuple, exceptionnellement. Il est allé jusqu'à vers les confins du pays, vers Tyr et Sidon. Mais il a dit lui-même qu'il était venu porter la bonne nouvelle au peuple. Et s'il n'y a pas eu Saint Paul, seul le peuple d'Israël aurait été un peuple sauvé. Il fallait encore que les apôtres partent dans tout l'univers pour annoncer l'évangile, mais que Saint Paul mette le sceau sur cette révélation, le sceau de l'Esprit Saint évidemment, par le sien, en ouvrant les portes, en ouvrant les portes de l'évangile, les portes des nations à l'évangile. À la suite de Saint Paul, à la suite de la compréhension de ces révélations, les apôtres aussi, comme lui, sont partis à l'extérieur du peuple. Et Saint Paul est le premier. Il n'y aurait pas eu Saint Paul, les apôtres seraient restés cantonnés sur la Terre Sainte, si vous voulez, sur le peuple d'Israël. Donc ça, c'est vraiment dans le projet, si je puis dire, dans l'économie divine, dans le projet de Dieu pour l'évangélisation du monde.